Il explique le lien entre l'amour humain et cet amour de Dieu pour nous. Dieu nous a créés comme son image et ressemblance. Et comme la Trinité, ce sont deux personnes qui s'aiment. La Trinité, c'est le Père et le Fils qui s'aiment d'une manière telle qu'entre eux jaillit l'Esprit Saint. Et il a créé l'homme et la femme comme un reflet de cette vie de la Trinité, comme deux personnes qui s'aiment et en s'aimant, ils produisent l'Esprit Saint. Chaque fois que deux personnes s'aiment dans le Seigneur, l'Esprit Saint est le baiser parmi eux. C'est le baiser de Dieu, parce qu'il y a un baiser dans la Trinité. Le Père et le Fils s'échangent, ces baisers. Et deux personnes, pas nécessairement un homme, une femme, un mari, une femme, mais deux amis qui s'aiment, un père qui aime son fils, une mère qui aime son fils. Toujours lorsqu'il y a deux personnes qui s'aiment, il y a quelque chose de la Trinité qui se reproduit. Et l'Esprit Saint est là. Avançons dans notre récit. Et je passe par-dessus ce qui arrive immédiatement après. Et les apôtres vont, ils prêchent, et là, beaucoup de gens sont touchés. D'autres objectent, ils se moquent d'eux. Et Saint-Pierre répond à cette objection en citant le prophète Joël, en disant que non, ils ne sont pas livrés, c'est la réalisation de la prophétie de Joël. Mais on voit, en lisant cette partie du récit de la Pentecôte, que Saint-Pierre est pressé parce que comme quelqu'un qui a quelque chose de beaucoup plus important à dire. En effet, ces messages qu'il a vient être exprimé au verset 23 du chapitre 2 des Actes des Apôtres. Il y a comme une nouvelle introduction dans son discours. Il dit « Homme d'Israël, écoutez mes paroles. » Et à ce moment-là, il prononce un nom. Il prononce un nom. Mais il prononce ce nom dans toute la puissance de l'Esprit Saint et l'onction de l'Esprit Saint qu'il vient de recevoir. Si bien que 3000 personnes sentir leur cœur transpercé. Et le nom, évidemment, c'était Jésus de Nazareth. Et puis Saint-Pierre, en pensant que peut-être beaucoup d'eux ne se rappelaient plus de Jésus de Nazareth, ou bien ne l'avaient jamais connu, parce que la plupart étaient là pour la fête de Pentecôte, alors ils se préoccupent d'expliquer, si, oui, cet homme qui passait parmi vous en faisant du bien à tous, et lorsqu'il est sûr que tous ont compris de quoi il parle, de qui il parle, il fait sortir deux tonnerres. Avec le premier, il les tue. Avec le second, il les ressuscite. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez consigné à des hommes sans loi qui l'ont crucifié. Vous l'avez tué. Mais Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a ressuscité. Nous sommes en face ici du premier kérigme, de la première prédication kérigmatique de l'Église. Qu'est-ce que ça signifie, kérigmatique, kérigme? Rien d'autre que cri. En français, ce serait le cri. Donc l'Église est née d'un cri. On sait que lorsqu'un enfant naît, le cri, un cri est le signe qu'il est vivant, n'est-ce pas? Vous, les pères, vous le savez, les mères, vous le savez. Non, moi, je n'ai jamais assisté à un... Mais l'Église aussi a montré qu'elle était vivante par un cri. Un cri qui est devenu un terme technique, kérigma, que russo signifie crier, kérigma signifie un cri. Mais un cri qui n'est pas un cri vide, c'est un cri plein. Et le contenu de ces cris... Et le Christ est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour notre justification. Dans différentes variantes, c'est toujours ce noyau essentiel qui énonce deux événements. Il est mort, il est ressuscité. Et la raison par laquelle il est mort, il est ressuscité, pour nos péchés, pour notre justification. Voilà les noyaux d'où est née l'Église.